Les valeurs du CARE, on les a un peu intégrées, mais on ne les revendique pas spécifiquement aujourd'hui, c'est-à-dire une vraie remise en question de nos systèmes de production, de consommation. Tous les déclics de démarrage de projet passent par la matière. Pour moi, on assiste beaucoup à un vrai clash de générations. Ton environnement professionnel, social te heurte en termes de valeurs. Petit à petit, tu commences à construire une envie de te séparer, de construire autre chose, de t'affranchir d'un modèle ambiant. Je me suis rendu compte que j'avais envie de mener des projets dans lesquels j'avais les mains libres et que je pouvais inventer vraiment ma façon de faire. On veut vraiment travailler sur des nouveaux processus de fabrication qui répondent davantage aux enjeux du durable.
Uncover, le podcast de Pulse Incubateur HES, vous dévoile les coulisses de l'innovation à travers des rencontres inspirantes qui nous portent vers un monde meilleur.
Hello à toutes et à tous, je suis Caroline Villemer, directrice de Pulse Incubateur HES. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui allie le design et l'éthique au service de la société. Parmi les innombrables définitions du design, j'apprécie particulièrement celle qui le caractérise comme un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Si le design, et donc les produits qui en découlent, a trop souvent été réduit à un instrument au service de l'industrialisation et de la consommation de masse, on fait aujourd'hui le constat d'un retour aux fondamentaux de cette discipline. Les grands bouleversements de notre planète et de notre société ont mis en évidence l'approche du care, le soin, et ses enjeux pour de nombreuses professions, notamment celle de designer. Le terme care design, design du soin, gagne en effet du terrain et redevient petit à petit une valeur essentielle. Il va jusqu'à s'inviter sur les bancs des hautes écoles spécialisées genevoises pour guider les premiers pas des jeunes designers et entrepreneurs qui se lancent. Choisir des matières respectueuses de notre environnement, créer des expériences collaboratives tout en positionnant l'usage au cœur du processus créatif, semble bien naturel. Mais est-ce vraiment à la portée de tous les créateurs d'associer le care au design? Comment peut-on concilier pratique, éthique et esthétique quand on entreprend? Pour en discuter sur les ondes du podcast Pulse Uncover, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Marie-France De Crécy, une designer visionnaire et engagée. Hello Marie-France.
Bonjour Caroline, merci beaucoup de m'accueillir et de m'inviter.
Ben, merci à toi d'être là avec nous. Je suis vraiment ravie de savoir que tu es de retour parmi nous.
Oui.
Donc je sais que tu es d'origine suisse et tu as vécu notamment aux États-Unis, mm-hmm. Tu as travaillé à Paris pendant plus de 16 ans, et, ouais. Et là, tu as décidé de revenir à Genève pour notre plus grand bonheur. Mmh. Et j'avais envie de te demander, en fait, pourquoi tu avais eu envie de revenir sur Genève et qu'est-ce qui a guidé, en fait, ce choix pour rejoindre...
C'est vrai qu'en fait, j'ai passé plus de temps à l'étranger qu'à Genève, parce que j'ai 47 ans aujourd'hui et j'ai quitté vers mes 21 ans. Et c'est quand tu quittes un pays, tu le quittes pour toutes sortes de raisons, et quand tu reviens dans un pays, tu reviens pour toutes sortes de raisons. Et donc, pour raccrocher plutôt un parcours professionnel, j'ai pu quitter Paris parce que j'y laisse vraiment quelque chose de très consolidé, puisque, on en parlera après, Wonder Vision est une association d'artisans designers composé de Stan, Sidonie et Juliette, avec qui je travaille, et qui reste à Paris pour continuer ce qu'on a amorcé ensemble. Ça me permet, moi, de venir dans mon pays d'origine, après l'avoir quitté plus de 20 ans, pour consolider et construire, en fait, Wonder Vision Suisse. Et donc, j'ai pas cette impression qui est souvent difficile à vivre, c'est l'idée de quitter pour tout reconstruire. J'ai plutôt l'impression de continuer un cheminement.
Pour comprendre peut-être où tu en es aujourd'hui avec Wonder Vision, est-ce que tu nous donnerais quelques étapes de ton parcours,
oui,
qui t'a amené en fait à créer, oui, le studio De Crécy et,
oui,
maintenant Wonder Vision?
Je peux te donner les grandes lignes. Donc, je suis partie de Genève pour m'installer d'abord à Paris pour faire les arts appliqués du Perret en textile. C'était difficile à l'époque de trouver du travail en tant que Suisse à Paris pour des difficultés d'accords bilatéraux. Et on est parti à l'époque avec mon ami se construire professionnellement à New York. C'était beaucoup plus facile de partir aux États-Unis. Et je pense que ça a été une aubaine parce que les États-Unis ont vraiment cette approche où la jeunesse est très valorisée, était énergisée, et puis tu as un droit de parole. Et donc, durant 2 ans, j'ai développé le métier de styliste. Et puis, pour des raisons aussi sentimentales, j'ai rencontré Hervé, mon mari, et je suis revenue à Paris, où j'ai été consultante mode, j'ai travaillé beaucoup pour le luxe, j'ai travaillé énormément dans les bureaux de tendance, j'ai continué à être styliste. Et puis après 10 ans d'exploration de ce métier, je commençais à saturer de 2 aspects du métier, une certaine violence humaine, certaine c'est un petit mot, en fait une vraie violence humaine, dans les relations de travail, dans la brutalité, une sorte de précarité, et puis une absence, et ça c'était difficile à vivre pour moi, de création. C'est-à-dire que l'industrie de la mode devenait de plus en plus accélérée, elle était vraiment rentrée dans le fast fashion, on est passé de 2 saisons à 7 saisons, on n'avait plus du temps de remettre les choses en question, on courait après le temps, il n'y avait plus du tout la place à la créativité. Et à ce moment-là, j'ai eu des postes de responsabilité qui me sont passés sous le nez, qui m'ont été proposés, et je me suis rendu compte que j'avais envie de mener des projets dans lesquels j'avais les mains libres et que je pouvais inventer vraiment ma façon de faire. C'est là où j'ai créé le studio de Crécy, et je me suis donné 2 orientations. C'était de transposer un peu une écriture plus présente dans la mode, visuellement et plastiquement, pour l'adapter au monde de l'architecture d'intérieur. Je trouvais qu'il y avait une sorte de niche à prendre.
Donc, tu as vraiment quitté la mode.
Ouais, pour j'ai aller voulu m'en séparer et me dire je garde les codes que j'ai développés, appris pour les appliquer à d'autres secteurs. Et c'était le début d'une sorte de multidisciplinarité, c'est-à-dire d'application à d'autres secteurs. Et j'avais tellement trouvé les rapports humains violents et triste, que je m'étais dit aussi, dans cette structure, les rapports humains ne sont pas de cet ordre-là et le stress sera interdit. Parce que souvent, le stress est associé à l'efficacité, ce qui est complètement saugrenu.
Mais quand tu travailles avec des grandes marques, avec des délais justement qui sont les leurs, oui, tu as réussi à garder en fait cette ligne de non-stress.
Je pense que c'est assez clé, sans m'en rendre compte, en fait, les délais auxquels j'ai après dû me plier en architecture intérieure. Et en fait, j'ai finalement énormément travaillé avec le luxe des grandes maisons et tout ce qui était installation, vitrine. C'est des autres timelines, en fait. C'est pas la mode s'organise intrinsèquement dans l'urgence à tout un système d'accouchement d'une collection qui se fait dans l'urgence, et ils sont habitués de manière névrotique à penser les choses comme ça. Et donc tout le mécanisme du développement est chargé de stress, alors qu'en fait les enjeux de temps, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas du tout organisés de la même manière en archi d'intérieur. C'est très très lent, en fait. Tu commences un projet parfois 1 année et demie avant qu'il aboutisse. Et j'ai travaillé beaucoup avec la joaillerie pour faire des vitrines pour les maisons Chanel, par exemple. Et là aussi, tu as des délais de temps qui ne sont pas du tout les mêmes. Beaucoup plus lent.
Et plus récemment, donc ça c'était le studio de Crécy, ouais. Et plus récemment tu as décidé de pivoter, comme on dit si bien dans le jargon entrepreneurial, en créant Wonder Vision, l'association dont tu parlais tout à l'heure. Et ça c'est un mouvement de designers et d'artisans qui, de ce que j'ai lu de ton site internet, interroge notre imaginaire de la matière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et puis quelle est la réflexion derrière cette création d'association?
Oui. Wonder Vision est vraiment né dans le studio. C'est vraiment issu d'un regroupement de personnes qui avaient des valeurs communes, des envies communes. Le grand déclic qu'on a eu, c'est que durant des années, on a été d'abord sollicité. Le studio a petit à petit grandi. Donc, je dis on parce qu'on était, j'étais plus du tout seule. J'étais en charge du bateau, mais il y avait beaucoup de personnes avec moi, des freelances, qui nourrissaient aussi cet environnement. Et on était toujours sollicité pour des missions de pure création. Et puis, avec la collaboration avec Chanel, qui était joaillerie, qui était une équipe avec qui on s'entendait très bien et avec qui on avait développé vraiment un lien de confiance, ils nous ont confié le fait de faire des productions à grande échelle mondiale, ce qu'on appelle des productions créatives. À la fois, ils nous sollicitaient pour notre créativité, pour notre savoir-faire des métiers d'art et pour notre capacité à mener une logistique à très grande échelle, c'est-à-dire mondiale. On devait produire 300 vitrines pour le monde, et c'est une logistique de dingue. Et dans ce contexte, une fois quand on a mis en place cette production, je pense que les premières valeurs de Wonder Vision sont nées parce qu'on a souhaité faire cette grande production en créant vraiment une sorte de de bulle avec plusieurs freelances. On a dû recruter à peu près 40 personnes. Et on a pu mettre les premiers jalons d'une micro-société auquel on adhérait, c'est-à-dire où les relations humaines, justement, étaient paisibles, où le travail d'exigence pouvait se faire de manière intelligente, en collégialité, en impliquant tout le monde, en faisant une hiérarchie plus horizontale. Donc, on s'est essayé dans cette production à vraiment poser des valeurs de société, mais de manière un peu organique. Et puis, à la fin de cette livraison, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout pu être au rendez-vous de certains enjeux écologiques. On s'est rendu compte qu'on nous avait missionné pour vraiment créer du beau, de l'envoûtement, du rêve, du désir. On avait fait un champ de blé dans 300 vitrines du monde. Tous les blés étaient ennoblis de manière extrêmement précise par cette équipe. Et puis, une fois que le rêve était terminé, en 3 mois, tout a été plié, détruit et disparu. Ça a disparu. Puis on s'est rendu compte qu'on était au fond au service d'une industrie qui créait du rêve et qui faisait complètement l'impasse sur ce qui se passait après. Et que cet après, on ne pouvait plus l'ignorer parce qu'il participait vraiment à un mécanisme désastreux de pollution. Et donc, on a souhaité vraiment penser nos métiers différemment. Et la matière a toujours été un peu une obsession, probablement parce qu'on vient des métiers du fer, beaucoup dans le studio viennent du design, mais aussi des métiers d'art, broderie. Juliette, tout comme moi, on a vraiment un background d'artisan brodeur. Moi, j'ai fait l'école de sage en haute couture il y a à peu près 5 ans. Et donc, le rapport à la matière, on l'a beaucoup exploré et on s'est rendu compte qu'il était clé dans une époque où tout se digitalise aussi, c'est-à-dire qu'on a un rapport à la matière qui disparaît, il n'y a plus d'aspérité, les écrans sont complètement lisses. Et le fait de perdre contact avec la matière, ça nous fait perdre contact avec une certaine part de notre humanité, de notre ancrage, de notre rapport à la nature, de notre vulnérabilité, du fait qu'on est fait de matière. Donc, c'est devenu existentiellement un grand...
C'est un projet de société, en
ouais,
fait.
Oui, ouais, c'est devenu quelque chose qui nous guide énormément. Et Wonder Vision, donc, s'attelle à... tous les déclics de démarrage de projet passent par la matière. Et c'est un peu, aujourd'hui, ce qu'on essaie d'enseigner auprès de nos... à la fois de nos clients, nos partenaires, des écoles, de nous-mêmes. C'est que tout part de la matière. Puisque avant, quand un peu dans le monde d'avant, celui qu'on essaye maintenant de développer est autre... Tu partais d'un projet, on te sollicitait pour avoir une idée, un concept, donc tu développais ton concept et puis après tu te disais, ben, ce projet il est fait de quoi ?
On te donnait des bases matière, et toi tu rentrais dans le cahier des charges.
Des charges et puis la matière venait 2-3 temps après.
Remplir...
Ouais. Et maintenant il faut leur dire, en fait on part de la matière, c'est-à-dire quels sont vos déchets ? Et en fonction des déchets que vous avez, les éléments un peu morts que vous avez mis de côté, on va en faire quelque chose et on va les sublimer et on va leur donner une seconde vie.
Donc en fait, toi, tu es dans une industrie où les concepts de green sont devenus très tendance. Ouais. Et on se pose toujours la question du greenwashing. Est-ce qu'on est vraiment dans cette démarche écolo-chic des grandes marques de luxe ? Et en fait, toi, tu amènes ce côté où on peut mêler l'esthétique et l'éthique,
oui.
Mais dans le concret et réellement et sur le long terme, en partant de la matière, du déchet, et en allant, en fait, tu leur dis quoi à ces entreprises qui viennent te solliciter pour tes services, mais est-ce que tu leur proposes directement de travailler sur la matière qu'ils ont à disposition ? Est-ce que tu leur expliques, tu dois faire beaucoup de pédagogie pour leur expliquer ta démarche, ou ça vient assez naturellement ? Comment ça se passe ?
Je peux te donner l'exemple de la maison Caron, qui est la parfumerie avec qui l'équipe de Paris travaille en partenariat depuis maintenant, ils enchaînent une seconde année.
Qu'on peut voir d'ailleurs sur vos réseaux, ouais. Instagram, notamment les très belles vitrines que vous avez réalisées pour Caron, ouais. C'est magnifique.
Et c'est en fait un vrai succès, c'est lié, je pense, fondamentalement à une impulsion qui est née par Ariane de Rothschild, qui a racheté Caron il y a plus d'une année, et qui a souhaité vraiment, et qui souhaite, je crois qu'elle est vraiment connue pour ça, prendre le là du durable et voir comment est-ce qu'on vraiment on change des méthodes de fonctionnement, des méthodes de production. Et chez Caron, ça a été intéressant, parce que quand on a rencontré Hugues, le directeur de Caron, Ils savaient qu'on avait une expertise en vitrine, qu'on avait travaillé pour le luxe, donc on connaissait les codes du luxe. On lui a présenté notre travail et puis il y avait des choses assez expérimentales comme ce qu'on fait avec Hermès. C'était probablement pas finalement notre patte plastique qui l'a immédiatement rassuré, mais c'est au moment où on a dit nous maintenant, on veut vraiment travailler sur des nouveaux processus de fabrication qui répondent davantage aux enjeux du durable. Et c'est là où il a complètement tilté en disant c'est vraiment un objectif, l'ambition de Arend Rothschild. Donc, voyons comment on peut articuler. Et avec la maison Caron, ce qui est assez génial, c'est que c'est une maison de luxe, donc il y a ces codes du luxe, donc il y a ce rapport à la beauté qui est sacro-saint. Mais c'est une structure qui n'est pas une énorme structure comme d'autres avec lesquelles on peut travailler. Ça leur donne une latitude, une flexibilité de se questionner et de remettre en question leur propre fonctionnement. Et donc, tu touches très rapidement à l'ensemble des employés, que ce soit les vendeurs, les gens du marketing, la production. Et tu peux justement rendre didactique un travail plastique. Et ça, c'est très précieux. C'est beaucoup plus compliqué avec les plus grandes enseignes. Et sur les plus grandes enseignes, je pense qu'il y a vraiment un travail de relation au beau qui doit se faire, en fait, qui est clé.
Donc on parle de care design de plus en plus, et ça concerne les objets, les structures, les constructions qui sont dédiées au bien-être, à l'humain, l'environnement. Est-ce que les valeurs de Wonder Vision sont associées à ce mouvement ? Est-ce que c'est important d'être rattaché à un mouvement, en l'occurrence ?
C'est une question que j'ai aucune réponse à te donner, dans le sens que très souvent, en fait, c'est les personnes extérieures à nous qui précise « Ah, mais est-ce que vous appartenez à ce mouvement ? Est-ce qu'il y avait aussi Design for Good ?» Il y a des mouvements, et c'est génial, il y a des mouvements qui effectivement se sont de plus en plus positionnés sur un peu des nouvelles valeurs qui se détachent un peu d'une violence qui est liée au capitalisme un petit peu sauvage. Et ça, c'est... Donc, je pense qu'effectivement, quand les valeurs du CARE, on les a un peu intégrées, mais on ne les revendique pas spécifiquement aujourd'hui, tout comme d'autres groupements. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que tu as de plus en plus de plateformes de gens qui échangent. On est rattaché aujourd'hui à un groupe qui est basé à Londres, qui s'appelle Alternative Thinkers. Et c'est un mouvement de personnes qui ont une pensée alternative et qui cherchent à faire les choses différemment. Et oui, c'est hyper important de se raccrocher à des mouvements pour ouvrir les collaborations et puis pour parler plus fort.
Il y a ça, et est-ce que grâce à ces mouvements, maintenant, on apprend certaines méthodes pour allier justement la création aux soins, à l'environnement, à l'éthique ? Est-ce que c'est des choses qui s'apprennent ou bien finalement c'est quelque chose que tu dois avoir fondamentalement en toi pour être assez convaincu et appliquer tes valeurs jusqu'au plus loin du processus ?
Je peux te parler de manière personnelle parce que c'est difficile de donner une sorte de mode d'emploi. Je dirais... que tu peux avoir effectivement tout au long d'un parcours de vie des moments où ton environnement professionnel, social te heurte en termes de valeurs. Et puis petit à petit, tu commences à construire une envie de te séparer, de construire autre chose, de t'affranchir d'un modèle ambiant.
Comme ce que tu as vécu finalement dans le monde de la mode.
Ouais, comme ce que j'ai vécu dans le monde de la mode. Et puis tout au long de ta vie, aussi des rencontres, tu vas te rendre compte que tu n'es pas seule à penser comme ça. Ouais. Ça, c'est hyper fort, en fait. Quand tout à coup, tu rencontres ta communauté, on en parlait avec Pulse, on en parle aussi avec Caritas, Genève, avec qui on développe des choses. Même la HEAD, je pense que rencontrer ta communauté de valeurs, c'est quelque chose de hyper fort aujourd'hui. Mais ces communautés de valeurs sont en fait aussi très mouvantes. Le CARE est très large, en fait, dans son offre de propositions. C'est vraiment le fait de remettre l'humain au centre. Et ça, c'était des valeurs qui appartenaient à la gauche avant. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand changement, c'est que ce n'est plus du tout que à la gauche. C'est-à-dire que c'est une nouvelle génération qui sent que le système en place perd complètement en termes de sens, n'offre plus rien en projet de société. Et donc, pour se reconnecter à un projet de société, tu reviens sur l'humain. Donc, tous les métiers sont touchés. Et donc, les métiers de la création le sont aussi. De ce fait.
Après, donc en tant qu'individuel, c'est, je dirais que c'est peut-être plus facile de s'émanciper en fait de ces codes des grandes entreprises ou bien de la violence, comme tu dis, de ce qu'on peut vivre dans notre vie professionnelle, etc. Par contre, pour réellement amener la transformation dans ces grandes maisons. Tu disais aussi que c'était plus compliqué quand c'était des plus grandes maisons, contrairement à une boîte comme, comme Caron. Tu m'as parlé de quelques anecdotes que tu avais vécues, notamment quand tu parlais des déchets. Une entreprise notamment qui disait « Non, mais nous, on n'a pas de déchets.
Ouais, »
C'est assez cocasse.
Oui, ouais, c'était dans le partenariat avec la Maison Caron. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'au début, donc, ils ont accueilli très bien cette idée de faire des décors durables. Et l'équipe de Wonder Vision est venue donc dans leurs locaux pour dire « Voilà, on va être à l'affût de trouver vos déchets. » Et donc, ils ont dit « En fait, on est désolé, on n'a pas de déchets. » on n'a pas vraiment ça. Et puis, au fond, c'est pas qu'ils n'avaient pas de déchets, mais c'est qu'ils ne percevaient plus la matière qu'ils n'utilisaient pas. Et ça fait partie vraiment de cette impasse, en fait, qu'a le luxe. C'était, au bout d'un moment, tu mets ça de côté et tu le vois plus. Et en 2-3 semaines, on s'est retrouvés au studio inondés de toute cette matière qu'on ne peut pas appeler d'ailleurs déchets, mais une matière non vivante, au sens où elle était mise de côté. Et puis maintenant, ce qui est vraiment génial, c'est que eux, d'eux-mêmes, ils disent « on a des pépites, ça serait génial de le réutiliser ». Et donc, ils sont rentrés dans un processus avec nous de compréhension, de gestion de cette matière. C'est beaucoup plus compliqué, de nouveau, pour des grandes enseignes, parce que ce qui est un peu matière morte, c'est-à-dire un vendu ou des éléments qui ont des défauts, tu ne peux pas vraiment les reconsidérer parce qu'à ce moment-là, tu rentres dans une zone un peu sacro-saint où ça veut dire que, comme le luxe se construit énormément sur une puissance de perfection, eh bien, si tout à coup, tu commences à valoriser l'imperfection, ce qui a du défaut, eh bien, tu romps ton contrat de confiance et de rêve avec ton client. Et c'est cette faille très, très compliquée dans laquelle aujourd'hui le luxe se trouve. J'espère pour nous tous, que justement, c'est un défi, je dirais, sémantique dans lequel ils vont réussir à trouver des nouvelles pistes pour se réinventer.
Bah, c'est vrai que le dernier podcast qu'on avait fait avec Sophie Gachet, elle nous parlait de toute cette mouvance vintage, était même créée par les industries du luxe elles-mêmes, faisaient leur propre vente de second-hand. Donc oui, je pense qu'il y a cette prise de conscience maintenant de l'appliquer plus largement à la question des déchets, etc. C'est encore une autre étape. Il y avait notamment aussi, en préparant ce podcast, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'enseignes qui utilisent le terme « good for the planet »,« green », je pense notamment à IKEA.
Oui.
Alors, on a tous des meubles IKEA chez nous, c'est pratique, c'est design, c'est facile. Ils ont fait une grande campagne sur justement leur implication dans ce design, dans ce fair design. Je me demande quand même quelle est la limite quant à l'exploitation, l'utilisation du terme du care dans ces grandes boîtes. Est-ce que c'est pas plutôt à des fins marketing qu'ils l'utilisent? Et tout ce questionnement de savoir qu'est-ce qu'on fait du green et est-ce que c'est vraiment sincère comme démarche.
C'est compliqué, effectivement. Dès lors que tu as une enseigne qui communique beaucoup sur quelque chose, ça nous met immédiatement des warnings. Et ce qui est je ne sais pas pour IKEA, je n'ai pas du tout étudié la situation, mais ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a un système économique qu'on appelle capitalisme, économie standard, néolibéralisme, qui est fondamentalement, le but n'est pas qu'il soit moral, donc il est fondamentalement amoral. Et donc, quand il y a des espèces d'émergences comme ça, de mouvements avec des valeurs fortes, son intention, c'est de l'avaler, de le récupérer et de l'incarner. Et dans ces moments-là, c'est là où il faut avoir toute notre vigilance et ne pas se faire prendre au piège, parce que dès lors que effectivement, le capitalisme, dans sa logique de surproductivité, c'est celui-ci qu'on dénonce aujourd'hui puisque c'est celui-ci qui menace notre planète, s'approprie des valeurs qui sont liées au changement. Alors ça devient très compliqué parce que ça tue dans l'œuf l'émergence de nouveaux mouvements qui seraient en rupture, en porte-à-faux ou en tout cas en construction d'autres modèles. Donc effectivement, il faut avoir une grande vigilance. C'est parfois un peu décourageant de voir des groupes qui n'ont aucun positionnement lié véritablement à un changement de système, parce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui, c'est-à-dire une vraie remise en question de nos systèmes de production, de consommation, de la mondialisation. Et ces enseignes, aujourd'hui, ne sont pas du tout dans les faits positionnées comme ça. Je pense qu'il y a une enseigne qui règne depuis maintenant des années, c'est Patagonia, c'est la marque américaine de sportswear, qui vraiment, aussi par rapport à son rapport à la nature, il y a plus de 15 ans, je dirais, a tout à coup dit, bah, en fait, on va vraiment changer de paradigme dans notre fabrication et dans notre communication. Ça y allait très loin. Donc là, on a vraiment affaire à des grandes enseignes qui changent radicalement toutes les étapes.
Ouais. Ou alors des mouvements comme les Bicorp, qui commencent vraiment à prendre une part assez importante dans l'économie, en partant du principe qu'on peut faire de l'argent tout en respectant la planète.
Ouais.
Et ça, c'est un mouvement qui me semble justement sincère et sur le long terme. Mmh.
Et sur des nouveaux modèles.
Des vraies valeurs et des nouveaux modèles de participation.
C'est tout l'enjeu de l'économie, en fait. Effectivement, on est arrivé à des tels niveaux d'exigence de bénéfices qu'on a perdu, en fait, on s'est comme un peu désencastré de la réalité. Et donc, le référent monétaire étant tellement puissant que même la notion de productivité, de fabrication, a complètement dévié. Donc, effectivement, les Bicorp et toutes sortes d'autres mouvements qui prônent aussi une autre économie sont extrêmement importants parce qu'on a besoin de modèles qui permettent de voir qu'on peut vivre, mais d'après un autre modèle, en fait, économique.
Et ce que tu as entamé avec Caritas, en fait, depuis que tu es revenue sur Genève, tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est justement, il me semble, un mouvement qui est rassembleur et qui amène justement une lignée qui peut être intéressante à développer.
C'est vraiment assez balbutiement, mais j'ai pu rencontrer Camille Kuntz par Elisabeth Fischler de La Hède. C'était cette envie de faire un partenariat entre La Hède et Caritas, et c'est dans ce contexte de lien entre La Hède et Caritas que j'ai été amenée par ce trio à réfléchir avec eux à comment Caritas, qui est vraiment sur un nouveau positionnement autour du upcycling, peut faire une économie et être leader dans le réemploi, dans la formation et être un peu une sorte de centre névralgique pour la jeune création locale, de venir se ressourcer à plein de niveaux, en fait. Et je pense que, tout à l'heure, je voulais t'en parler, c'est au fond, dans cette difficulté de réformer ce monde qui marche sur la tête, ça part souvent aussi d'individus qui, tout à coup, prennent le lead, que ce soit Elisabeth à La Hède, que ce soit Camille chez Caritas, qui, tout à coup, ont une vision et donne de l'espace à cette vision pour essayer de faire immerger quelque chose de nouveau. Et puis, souvent, d'ailleurs, à la direction, c'est aussi, par exemple, chez Chanel, c'était le cas, c'est presque toujours le cas. Tu as des espèces d'électrons libres qui essayent de changer les choses et qui ont un énorme travail pour amener la direction à comprendre que c'est là où se passe l'avenir. Donc aujourd'hui, avec Caritas, c'est vraiment l'idée de consolider cette envie de faire du upcycling une économie viable et créative et qui surtout soit au service d'une réinsertion, mais une réinsertion qui s'inscrit effectivement dans un nouveau paysage un nouveau écosystème local qui mélange et qui mélange aussi les différents mondes culturels.
Alors moi, je suis particulièrement concernée par les jeunes entrepreneurs et entrepreneurs. On a pas mal de projets qui sont justement dans cette veine, qui soient issus de la HED, de la HEG, de l'EPIA, des différentes écoles, du social, de la santé, de la musique. Et là, j'ai trois projets en tête dont on peut peut-être parler un peu, qui s'inscrivent en fait dans cet univers du care design. Je pense notamment à Shizuka Saito, qui est une designeuse qui travaille énormément sur le réemploi des matériaux, sur la production locale, qui a vraiment un univers basé sur cette qualité et sur l'origine des matériaux. Il y a Upgreen qui, eux, sont très centrés sur l'utilisation, qui ont développé une poubelle à compost avec un design vraiment spécifique, des matériaux aussi écologiques et une volonté de rendre le recyclage du compost plus facile pour les ménages. Puis il y a BoxUp qui travaille plus sur l'expérience avec des boîtes connectées qui sont installées dans les espaces publics sportifs. Et c'est très facile pour les gens d'aller chercher du matériel de sport en plein air gratuitement avec une application. Donc ces trois projets, pour moi, ils s'inscrivent vraiment dans cette veine du care design. Mais je me pose vraiment la question est-ce que c'est à la portée de tous? Parce qu'on ressent une grande pression du good for the planet pour les jeunes entrepreneurs. Et on sent un engagement très sincère de leur part. Par contre, de combiner leurs valeurs à la réalité économique, là, ça devient compliqué. Donc, est-ce que déjà tu as des conseils? Est-ce que tu l'as vécu? Et comment ça peut se réconcilier, en fait, ces différentes problématiques?
Je pense qu'un des éléments clés, c'est justement cette communauté de valeurs dans laquelle ces projets, on en avait parlé avec certaines personnes de Pulse, s'inscrivent justement. Lundi Piscine nous avait dit justement, c'est parce que j'ai une communauté qui m'a soutenue que donc dans mes ventes, j'ai pu m'assurer en fait une réalité économique viable. J'ai pas vraiment de réponse parce que c'est effectivement l'enjeu principal. Je dirais que comme on doit inventer des nouveaux modèles économiques, il faut aussi inventer des nouvelles relations et ça passe beaucoup par des communautés de valeurs qui se soutiennent. Je pense que ce qui est en train de se passer, alors si je peux justement donner un là positif qui répond pas directement à ta question, mais peut-être quand même. On a rejoint, nous, le groupe de Alternative Thinkers, dont je te parlais. Et l'idée de ce groupe de personnes qui pensent différemment, c'est que avant, les sociétés, les entreprises consultaient les personnes qui pensaient un peu différemment. C'était un peu leur danseuse. Ils côtoyaient des personnes qui pensaient différemment, mais on ne leur donnait pas vraiment une attention si essentielle. Et avec la crise du Covid, du fait que le système entier est mis sous pression et qu'on voit vraiment les failles du système, tous les gros groupes, et tant au niveau public que privé, se rendent compte qu'ils ont vraiment besoin de se nourrir de ces niches de nouveaux penseurs. Et dès lors qu'ils y prêtent une attention plus respectueuse et plus intéressée, peut-être même plus opportuniste, alors il y a quelque chose d'important qui se joue là, c'est-à-dire d'effectivement sortir de ces niches et de se permettre d'avoir en fait un impact plus important. Mais je pense qu'au fond, la crise qu'on vit actuellement sanitaire secoue tellement le système que ça donne aussi à ces niches le pouvoir d'avoir plus d'impact sur les mutations dont on a besoin. Je dirais que là, il y a une vraie opportunité à saisir.
Ouais, et ce que je vois aussi en fait au quotidien, et c'est très très fort chez Pulse, et c'était un peu le but de créer cet espace d'incubation pour les projets issus de la HES, c'est la forte collaboration en fait entre les projets, et on n'est plus du tout en fait dans cet esprit de compétition. Et en fait, moi, j'hallucine chaque jour la force du partage, des synergies. Et je me demande si c'est pas une des voies, en fait, où on va plus travailler. On parlait l'autre jour des métiers d'art où il y a un peu deux courants. Je sais pas si tu veux nous en parler un petit peu.
Oui, je pense qu'effectivement, pour moi, on assiste beaucoup à un vrai clash de générations. Une génération qui est encore pas mal au pouvoir et qui est habituée, en fait, au fond, aux croyances des Trente Glorieuses, d'une économie très très dynamique, et avec des valeurs qui sont liées encore même à une compréhension du progrès qui est typique de la révolution industrielle. Bref, ce pan-là de la société commence un tout petit peu à décrocher de l'énergie fulgurante que tu vas voir auprès de la jeune génération. Et c'est vrai que tu le retrouves dans pas mal de métiers, c'est-à-dire que je trouve souvent que la jeune génération, les personnes entre 20 et 30, même avant, sont bien plus matures sur une compréhension et une force de proposition que la génération au-dessus. Sauf que la génération au-dessus, elle a encore les postes. Donc, Je pense que là où ça fonctionne le mieux, c'est quand justement la génération qui a les postes comprend que dans la jeune génération, c'est pas juste la jeunesse idéaliste qui est en train d'émerger, c'est en fait les gens qui vont hériter d'un merdier pas possible qu'on est en train de léguer et qui sont déjà, par leur maturité de responsabilité qui les attend, en avance. C'est vrai qu'on le dans les métiers d'art, il y a toujours sur cette histoire des métiers d'art cet héritage, ce patrimoine, ce côté en fait un peu formol, alors que les nouveaux métiers d'art sont beaucoup plus multidisciplinaires, comme tu disais. Je l'ai vu avec un workshop qu'on a animé à la Head en septembre. Les étudiants étaient capables de passer de l'atelier menuiserie à l'atelier céramique, à l'atelier métal, alors qu'ils faisaient de la bijouterie. Ils avaient une dextérité en fait de multifonction.
Bah, ça me fait penser, on avait fait un rendez-vous avec Elliot Gagliardi, c'est une des jeunes startups qui sont chez Pulse aussi, qui mélange Benjamin Elliot qui vient de l'EPIA, qui est plus dans l'architecture et l'ingénierie, et puis Hélène qui, elle, travaille sur le design mode. Et en fait, leurs deux univers rassemblés créent quelque chose d'absolument exceptionnel. Et là aussi, ils travaillent avec des matériaux donc de récupération, avec des ateliers de couture locaux. Enfin, il y a vraiment au sens et ces valeurs absolument fondamentales dans le développement de leur projet.
Oui, parce que je pense que c'est une génération qui a besoin de donner du sens à son travail, en fait. C'est plus du tout une génération qui... Elisabeth Delahaye le disait, c'est plus tellement une génération qui rêve. D'ailleurs, moi, je faisais partie de cette génération d'aller travailler à Paris, à Londres ou à New York avec des grands DA. En fait, tout ça, ça fait fantasmer plus personne, en fait, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le passé et qui n'a pas de réponse par rapport aux enjeux de demain.
Et est-ce que tu ressens aussi que cette crise qu'on est en train de vivre, finalement, elle fait ressortir? Certes, toutes les inégalités, certes, le drame qu'on vit avec ce virus, mais aussi de formidables en fait, opportunités et la sincère humanité en fait, des gens. Là, j'ai commencé un bouquin cette semaine de Rutger Bregman, je ne sais pas si tu connais, Humanité, une histoire optimiste. Et en fait, le fondement de ce bouquin, c'est de se dire que l'humanité est bonne en fait.
Oui.
Et qu'il y a des statistiques, des bouquins entiers qui parlent des guerres et à quel point les gens se sont trucidés. Mais au final, tu te rends compte qu'il y a eu énormément de soutien entre les gens, de collaboration, de vraiment d'une vraie beauté qui émergeait de crises, de guerres et de situations catastrophiques. Et je trouve que ça fait aussi ressortir toute cette beauté de l'humanité, ce genre de situation.
Oui, mais c'est vrai que c'est un rapport de force constant entre ces deux tensions humaines, c'est-à-dire celle qui construit et celle qui détruit. Et là, c'est vrai que comme le système bascule, la partie de construction, elle devient vitale. Et puis, elle nous a aussi, cette crise, vraiment levé le voile. Moi, je viens de déménager, comme tu dis, en Suisse, mais j'habitais dans le 93, derrière Paris 18e. Et les inégalités, en fait, le moment du premier jour du confinement, ça a levé un voile, pour moi, inouï sur l'inégalité. Aujourd'hui, moi, je peux venir ici parler parce que je suis vraiment quelqu'un de privilégié. Et il y a vraiment un ensemble de gens qui ne sont pas considérés dans la société, à qui on ne donne pas la parole, et pourtant qui auraient beaucoup de choses à dire, puisque justement ils n'ont jamais bénéficié de ce système, et ils pourraient apporter leur pierre à l'édifice. Et je pense qu'effectivement on est dans une société qui a perdu le fil du lien, du soutien social... Et voilà, même auprès de la droite, on sent vraiment qu'il y a cette prise de conscience. Donc ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire que globalement, les choses sont questionnées. Mais on le voit avec le départ de Trump, on est tout le temps sur le fil du rasoir de basculer, en fait. Et donc là, c'est vrai que c'est une époque, je trouve, qui est complètement vertigineuse et qui peut créer de l'angoisse. C'est aussi une époque qui est vertigineuse parce qu'elle, du coup, force le renouveau.
Et Wonder Vision, en fait, comment tu le vois évoluer pour amener justement toutes ces valeurs, tous ces fondamentaux du côté de la Suisse, de Genève? Est-ce qu'il va y avoir vraiment des ponts avec Paris? Vous allez continuer à travailler sur des projets en commun, toujours pour des grandes maisons, ou est-ce que, comment ça va évoluer?
Je pense que, un peu naturellement, la partie Wonder Vision Paris continue. la beauté au service d'un renouvellement, c'est-à-dire comment est-ce que d'une matière inerte on peut faire du beau. Et souvent, en fait, nos décors, tu vois absolument pas du tout que c'est des déchets, c'est ça l'intention. Donc c'est un peu cette nouvelle narration, ces nouveaux récits imaginaires autour d'une relation au beau qui est régénérée. Et du côté de Genève, c'est l'idée aussi que ce soit Wonder Vision plus engagé socialement, c'est-à-dire l'action créative mise au service des mutations sociales, du soutien social, d'autres prises de parole. Et là, il y a aussi une dimension très multidisciplinaire, comme tu disais. Et donc, Wonder Vision Suisse est un peu plus axé sur ce côté pédagogique et social. Mais les deux, on est en fait sans arrêt en lien. Et les deux se nourrissent beaucoup. Et parfois, des membres de Wonder Vision viennent à Genève ou à Lausanne et vice-versa. Donc, on est vraiment en fait un laboratoire. Wonder Vision, c'est vraiment un laboratoire plastique et social. Et donc, on a besoin de ces laboratoires pour sans arrêt voir comment est-ce que nos champs d'application peuvent donner un point de vue et plastique et social.
Excellent. Bah, écoute... Merci infiniment pour tout cet échange. On est vraiment ravis de pouvoir te compter parmi nos partenaires parce que je pense qu'il y a vraiment matière à développer des ateliers de création pour justement faire travailler les projets ensemble. Comme ça, en terminant, pour moi, ça me parle vraiment d'engagement, de créativité au service des transformations de la société. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, de transformation, elles sont multiples. Donc, je vois que vous créez des synergies entre les projets, entre les identités, que vous contribuez à faire perdurer les métiers d'art et de design en les réconciliant avec l'humain, avec la société. Donc, bravo et merci de le faire. On est réjouis de pouvoir vous soutenir dans cette démarche. Je ne peux pas finir cet entretien sans te faire une demande très spéciale de la part de Spot Podcast Factory. Donc, je sais que t'as quelqu'un dans ton entourage très proche, donc de ton nom de Crécy, qui fait beaucoup de musique, le talentueux DJ Étienne de Crécy, qui n'est autre que ton beau-frère. Donc j'aimerais vraiment pouvoir compter sur toi pour lui faire un petit message, qu'on serait ravis en fait qu'il vienne bientôt à Genève pour animer un set au Spot Podcast Factory. Ça nous ferait très plaisir, ça nous permettrait de s'évader un peu et puis de retrouver la beauté aussi de ce qui nous rassemble à travers la musique, parce que ça, c'est aussi un art qui nous rassemble. Donc voilà,
on te confiance. Je te promets que je serai le messagère engagée auprès d'Étienne.
Merci Marie-France. À très bientôt.
À très bientôt.
Puis, bonne journée.
Merci à Pulse.
Pulse, l'incubateur interdisciplinaire de la HESSO Genève, contribue à l'écosystème d'innovation genevois à travers ses collaborations et les projets qui l'accompagnent. Rejoignez-nous sur pulse-hese.ch et si vous avez écouté cet épisode d'Uncover jusqu'au bout, merci de le partager autour de vous. De véritables pépites se cachent dans les hautes écoles spécialisées à Genève. Nous comptons sur vous pour les faire découvrir.